en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Vous allez pouvoir entendre la communication de Mgr Minrat, actuellement archevêque de Dijon, consacrée au thème « Conservation et évolution du système concordataire en Alsace-Moselle depuis 1871 ».
Il est convenu d'appeler « système concordataire » l'ensemble de la législation des cultes en vigueur en Alsace-Moselle à ce jour, bien que, à strictement parler, le concordat de 1801 ne concerne que l'Église catholique et qu'il ne contient que peu de dispositions au regard de l'ensemble de cette législation. Mais le concordat est la pièce maîtresse du système, puisque, traité international signé entre le Saint-Siège et l'État, il n'est pas modifiable par une simple loi. Au concordat de 1801 s'ajoutent d'ailleurs deux autres conventions internationales signées avec le Saint-Siège, la convention de 1902 pour la création de la faculté de théologie catholique à l'université de Strasbourg et celle du 25 mai 1974 créant un centre autonome d'enseignement et de pédagogie religieuse à Metz. Le système concordataire englobe donc les articles organiques de la loi du 18 germinal de l'an 10, édicté unilatéralement pour le culte catholique d'une part, pour les cultes luthériens et réformés d'autre part, auxquels viendront s'ajouter le décret impérial du 17 mars 1808 et l'ordonnance royale du 25 mai 1844 reconnaissant le culte israélite. Le décret du 26 mars 1852 viendra encore préciser l'organisation des deux cultes protestants. Le système concordataire concerne donc exclusivement les quatre cultes reconnus et les trois départements de l'Est. Des établissements publics du culte, entre autres, la manse épiscopale et curiale, les fabriques des paroisses, des conseils presbytéraux et consistoires, sont soumis à la tutelle administrative et ont la capacité juridique de posséder et de gérer les biens des cultes reconnus. Les ministres du culte sont rémunérés par l'État en vertu de l'article 14 du Concordat et de l'article organique 64 pour les cultes catholiques, de l'article organique numéro 7 pour les protestants et d'une loi de 1831 pour le culte israélite. Le pouvoir exécutif jouit de prérogatives importantes dans la nomination des évêques par le président de la République, du président de l'Église de la Confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine et des sept inspecteurs ecclésiastiques par le Premier ministre, également dans l'autorisation donnée aux évêques auxiliaires de recevoir leur bulle de nomination, dans l'agrément ministériel exigé pour les nominations des chanoines, des vicaires généraux et des curés, ainsi que des présidents des consistoires, des pasteurs, des grands rabbins consistoriaux et des rabbins et des ministres officiants. Disons tout de suite que les cultes non reconnus sont régis par le droit local des associations remontant à la loi d'Empire du 19 avril 1908 et aux articles 21 à 79 du Code civil local. Depuis 1976, la jurisprudence ne met plus de restrictions aux demandes d'inscription d'associations cultuelles. Ces dernières ont la capacité juridique de recevoir des dons et des legs, de posséder toute catégorie de biens sans être soumis à la tutelle administrative, à condition d'avoir un objet exclusivement cultuel. Elles ont les mêmes avantages fiscaux que les associations cultuelles de la loi de 1905 et peuvent être financées par les collectivités locales. Le système des cultes reconnus trouve son expression philosophique dans les discours à la chambre du conseiller d'État Portalis, chargé des cultes sous le consulat. Elle tient en deux notions, je cite, « surveillance utile et protectrice des activités religieuses par la puissance publique, appel aux institutions religieuses pour enseigner les valeurs morales fondamentales et l'obéissance au pouvoir établi ». Cette philosophie s'inspire du gallicanisme politique que les articles organiques formulaient en des termes d'ailleurs souvent obsolètes et pour cette raison jamais appliqués. Sous le régime des articles organiques, que l'Église catholique, pour sa part, n'a jamais reconnu, l'État règle dans le détail divers aspects de la vie interne des Églises, même des points de doctrine, ainsi que les structures territoriales des diocèses et des paroisses. Un autre pilier du système concordataire est la législation scolaire locale. Puisque la loi Falloux de 1850 est toujours en vigueur, selon laquelle les écoles du premier degré sont confessionnelles et que l'instruction religieuse figure parmi les matières obligatoires. Falloux estimait, je cite, que pour que la religion communique à l'éducation sa puissance, il faut que tout y concourt à la fois, et l'enseignement et le maître. Somme en 1850, a souligné que l'enseignement religieux dans les écoles publiques ne relève pas de la législation des cultes proprement dites. Et donc, jusqu'en 1871, l'Alsace-Moselle partageait ce système qui était le système concordataire pratiqué dans l'ensemble du pays. Maintenant, dans l'Empire allemand, après la signature du traité de Francfort, le 10 mai 1871, qui cédait l'Alsace-Lorraine à l'Allemagne, le système concordataire a été tacitement reconduit par le gouvernement allemand. De nombreuses difficultés ont été aplanies au début. Dans un premier temps, le Saint-Siège considérait que le concordat n'était plus applicable dans le Reichsland. Mais le gouvernement allemand s'est pratiquement substitué aux signataires français. Par exemple, le concordat prévoyait pour la nomination des évêques une nouvelle négociation au cas où le chef de l'État n'était pas catholique. L'empereur allemand protestant trouva une solution en déclarant suffisant aux effets civils l'enregistrement de la bulle pontificale de nomination sur un registre déposé au tribunal d'instance de Strasbourg. Et donc, sur le socle du droit français de 1802, 1844, 1850 et 1852, sont venus s'ajouter, entre 1871 et 1914, un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires allemandes qui ont consolidé le système. Elles concernent notamment l'organisation du culte protestant, l'enseignement religieux, la rémunération des ministres du culte et les jours fériés. Les jours fériés, par exemple, l'ordonnance de 1892 est toujours appliquée, toujours en vigueur, et comporte deux jours fériés supplémentaires par rapport à ceux que nous connaissons en France, à savoir le 26 décembre et le vendredi saint. L'ordonnance du gouverneur général du 18 avril 1871 maintient immédiatement la loi Falloux comme loi locale et confirme le principe de la confessionnalité des écoles. La scolarité est rendue obligatoire, les maîtres assurent l'enseignement religieux avec l'agrément de l'autorité religieuse et il n'y a pas de dispense de l'enseignement religieux à cette époque. Par une autre ordonnance du 22 juillet 1872, le culte israélite est réorganisé par le transfert de compétences du consistoire central de Paris aux consistoires départementaux autonomes, qui sont des établissements publics du culte. Une ordonnance impériale du 22 avril 1902 précise les conditions d'éligibilité au consistoire. Une nouvelle loi, une loi cette fois-ci, du 12 février 1873, suivie de diverses ordonnances, 1873-83, préciseront, comme l'ordonnance de 1887 que je cite, « L'enseignement et l'éducation doivent être tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis et des lois ». Bien que le Kulturkampf ait, entre 1872 et 1880, entraîné une série de vexations contre la présence du clergé dans les écoles et contre les congrégations dont la maison mère se trouvait en France, il y eut un apaisement vers 1880 et la loi Falloux continuait à être appliquée. C'est l'ordonnance du chancelier du 10 juillet 1873 qui introduit l'enseignement religieux dans les programmes scolaires du second degré. Les écoles normales sont également confessionnalisées par la loi du 16 avril 1881. Une loi de 1873 crée à Strasbourg le chapitre de la Fondation Saint-Thomas, destiné à recueillir et administrer les biens de l'ancien séminaire protestant, qui gérait tous les biens de l'Église luthérienne exemptés de la nationalisation des biens ecclésiastiques à la Révolution. Alors que la faculté de théologie protestante a été intégrée dans la nouvelle université allemande dès sa création, par la loi du 28 avril 1872, il a fallu attendre 1902 pour que se concrétise par une convention internationale avec le Saint-Siège l'initiative du gouvernement impérial allemand de créer une faculté de théologie catholique au sein de l'université de Strasbourg. L'évêque de Strasbourg et le clergé alsacien y étaient hostiles au début, y voyant un instrument de germanisation du clergé. La faculté prenait place à côté donc de la faculté protestante qui n'avait, elle, jamais quitté l'université depuis sa création en 1566. La loi du 15 novembre 1909 sur les traitements des ministres du culte tend à les rapprocher du statut des fonctionnaires. En vertu de cette loi toujours en vigueur, les ecclésiastiques catholiques sont rémunérés d'après l'âge, les autres d'après l'ancienneté dans le service. Tous, y compris les services de secrétariat des autorités religieuses supérieures, ont droit à une pension s'ils ont au moins 10 ans de service et s'ils prouvent qu'ils sont incapables de continuer à exercer leurs fonctions. Voilà les principaux apports législatifs et réglementaires pendant la période allemande. Après avoir passé l'épreuve du feu de 1871, le régime concordataire allait-il être remis en question lors du retour à la France? Le maréchal Joffre avait promis à Thann, le 24 novembre 1914, je cite, parlons aux Alsaciens, « La France vous apporte, avec les libertés qu'elle a toujours représentées, le respect de vos libertés à vous, les libertés alsaciennes, de vos traditions, de vos convictions, de vos mœurs. » Après la signature du traité de Versailles, le 28 juin 1919, la loi du 17 octobre 1919 crée un régime transitoire pour les territoires d'Alsace et de Lorraine, y maintenant toute la législation en vigueur et annonçant l'introduction par des lois spéciales de la législation française. De fait, la loi du 1er juin 1924 introduisait la législation civile française à l'exception de 13 domaines dans lesquels les lois locales jusque-là en vigueur étaient maintenues. Entre autres, parmi ces domaines, les règles locales de droit civil et pénal, de droit social, de droit commercial, d'assurance sociale, de droit associatif. Et parmi ces domaines, la législation sur les cultes et les congrégations religieuses. La crise qui suivit immédiatement, provoquée par les intentions du cartel des gauches arrivé au pouvoir en 1924, montra l'attachement des Alsaciens-Lorrains à la conservation de leurs lois locales. La protestation fut unanime et vigoureuse. Le Conseil d'État donna d'ailleurs le 24 janvier 1925 un avis positif sur le maintien en vigueur dans les trois départements, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, du régime concordataire, je cite, « tel qu'il résulte de la loi du 18 germinal de l'an 10 ». La protestation avait surtout tourné autour de la question du maintien du statut scolaire. Le régime des cultes, tel qu'il était appliqué avant le retour en France, fut donc intégralement appliqué. Il n'y aura plus de loi à partir de 1919, mais seulement des décrets d'application permettant d'adapter la législation aux exigences nouvelles de la vie des cultes. Ainsi, la loi allemande de 1905 est-elle restée la source du décret pris le 23 novembre 1922 par le commissaire de la République pour l'organisation du synode de l'Église réformée d'Alsace et de Lorraine? Ce décret sera complété par un autre du 19 juin, plus proche de nous, 1970, concernant le mandat du président du Conseil synodal. La possibilité de demander une dispense de l'enseignement religieux est introduite le 13 juin 1933 par la circulaire Lachambre. À partir de 1951, les maîtres pourront aussi se faire dispenser de cet enseignement et depuis 1974, dans la généralité des cas, ce sont des maîtres volontaires qui assument assure l'enseignement religieux dans, au premier degré. Il y eut une nouvelle crise en 1936, lorsque le Front populaire voulut imposer par un décret la prolongation de la scolarité pour les garçons seulement jusqu'à 15 ans, soit un an de plus que dans le reste du pays, pour rattraper le temps consacré à l'instruction religieuse et à l'étude de l'allemand. La protestation fut rude également et le Conseil d'État annula le décret Blum le 10 octobre 1936. Après 1918, le gouvernement français avait expressément souhaité le maintien des deux facultés de théologie dans l'université d'État française. Le décret du 30 mai 1924 a confirmé que la faculté, créée par voie de convention avec le Saint-Siège en 1902, continuait d'exister dans l'espace juridique français. La seule période où l'Alsace-Moselle fut brutalement privée de son statut local fut l'occupation nazie. L'ordonnance relative au rétablissement de la légalité républicaine dans les trois départements du 15 septembre 1944 déclare la législation en vigueur au 16 juin 1940, seule applicable et provisoirement maintenue. Toute tentative visant à priver, contre leur gré, les populations de l'Est d'un statut auquel elles tiennent rappellera nécessairement l'expérience abhorrée des années 1940-1944. La dernière tentative gouvernementale de mettre fin au régime des cultes d'Alsace-Moselle fut celle imaginée par le président du Conseil Guy Mollet en 1956. Il envisageait une refonte de la législation des cultes, des congrégations et du régime scolaire pour l'ensemble du pays, y compris par une nouvelle convention avec le Saint-Siège. En échange, le statut local alsacien-mosellan serait supprimé. Les dispositions envisagées par Guy Mollet étaient bien moins favorables que celles qui étaient en vigueur en Alsace-Moselle. Aussi l'évêque de Strasbourg, Mgr Weber, connaissant l'opposition de la population au projet, refusa-t-il de s'y rallier, et Rome ne lui força pas la main. Les négociations cessèrent après la chute du gouvernement Guy Mollet. Des formations politiques qui inscrivaient jusque dans les années 1980 la suppression du régime concordataire s'y sont finalement ralliées, comme l'ont souligné les ministres de l'Intérieur successifs venus s'exprimer à Strasbourg. Il n'y a guère que quelques groupes, comme par exemple la Libre Pensée, qui organise encore régulièrement des colloques pour réclamer l'abrogation pure et simple de la législation des cultes dans les trois départements. Alors, ce qui est frappant dans ce système, c'est sa capacité de s'adapter aux nouvelles conditions de la vie. Un exemple de la flexibilité du système concordataire et de sa capacité de s'adapter, c'est le décret du 18 mars 1992 sur les fabriques d'église qui a remplacé 35 articles du précédent décret impérial du 30 décembre 1809 et en a abrogé ou modifié 66. Il s'agissait de moderniser la composition et la gestion des établissements publics du culte qui administrent les biens des paroisses. Ainsi, les comptes annuels des fabriques, arrêtés par le conseil de fabrique, sont-ils approuvés par l'évêque et en cas d'insuffisance des ressources de la fabrique, la commune doit continuer à équilibrer ses comptes par une subvention proportionnée. Autre exemple concernant la reconnaissance légale des congrégations religieuses. La loi du 16 novembre 1942, modifiant celle du 1er juillet 1901 et autorisant la reconnaissance des congrégations religieuses par simple décret, n'étant pas applicable en Alsace-Moselle, les demandes de reconnaissance devaient encore passer par une mesure législative, comme l'exigeait la loi du 2 janvier 1817. Un avis du Conseil d'État du 16 novembre 1993 a généralisé la reconnaissance par décret. De même, dans le domaine scolaire, l'enseignement religieux obligatoire dans le second degré a été non seulement maintenu, mais étendu à l'enseignement technique par un arrêt du Conseil d'État du 23 mai 1958. La formation des enseignants de religion est assurée par les deux instituts universitaires de formation des maîtres d'Alsace et de Lorraine pour le primaire et le secondaire. Les écoles maternelles et primaires sont toutes devenues interconfessionnelles. L'enseignement religieux est dispensé par des personnes proposées par les autorités religieuses respectives et agréées par le rectorat depuis le décret du 3 septembre 1974. Il est toujours obligatoire avec faculté de dispense sur simple demande. Dans l'enseignement privé, où est en vigueur la loi du 31 décembre 1959 avec possibilité d'association par contrat, et le régime local s'applique quant à l'enseignement religieux. Les enseignants y étant rémunérés comme dans le public pour l'enseignement de la religion. De plus, les écoles privées peuvent être subventionnées par les collectivités locales selon les dispositions de la loi Falloux. Côté protestant, l'organisation de la confession d'Augsbourg, d'Alsace et de Lorraine a été remise à jour par les décrets du 17 juillet 1987 et du 24 mars 1992. Le directoire de 5 membres, comprenant le président, exerce le pouvoir administratif et le décret de 1987 crée un organe nouveau qui est le Conseil consistorial. Celui de 1992 modifie la composition et les compétences du Conseil presbytéral et modifie aussi la procédure de nomination des pasteurs. Le statut des ministres du culte n'est pas celui des fonctionnaires, selon l'avis du Conseil d'État du mois d'août 1948. Un régime spécial de sécurité sociale a été créé par décret du 19 janvier 1951. Et maintenant, dans le cadre des traités européens, les citoyens des pays membres peuvent être nommés partout dans l'Union européenne à des fonctions cultuelles. Pour les autres, une autorisation du gouvernement est nécessaire, comme en 1802, selon l'article 32 des articles organiques. Compte tenu d'autre part de la raréfaction des membres du clergé, une interprétation plus extensive a pu être donnée à la notion de ministre du culte. Non seulement les diacres permanents dans l'Église catholique, par exemple, mais aussi des auxiliaires laïcs peuvent recevoir des traitements de ministre du culte sur certains postes budgétaires vacants. Dernier en date parmi les mesures d'adaptation du régime des cultes aux exigences actuelles, le décret ministériel de janvier 2001, qui a pour objet de simplifier les procédures et de déconcentrer les décisions concernant les nominations, l'embauche de ministres du culte non européens, la rectification des circonscriptions ecclésiastiques. Quelles sont les perspectives ouvertes par ce statut ? Les deux églises protestantes, luthériennes et réformées, en Alsace-Moselle, ont entamé depuis 1969 et à nouveau de 1992 un processus de réflexion visant à rapprocher leurs structures administratives respectives. D'abord sous la forme d'un conseil commun et d'une assemblée commune. Ces instances nouvelles demanderont à être reconnues par décret. La question souvent posée de l'intégration de l'islam dans le régime des cultes reconnus. En Alsace-Moselle, le culte musulman compterait 120 000 personnes. Une déclaration d'il y a quelques années, de 3 ans, conjointe des responsables des cultes reconnus, a même exprimé le souci, je cite, d'une extension du concordat à la communauté musulmane, expression juridiquement pour le moins impropre. Dans les années 90 du siècle dernier, le souhait a été exprimé de créer une faculté de théologie musulmane au sein de l'Université de Strasbourg pour la formation des imams. Une telle décision ne pourrait en fait être prise par simple décret. Il faudrait une loi. La législation des cultes disponible en Alsace-Moselle ne comporte pas de reconnaissance légale d'autres cultes que ceux reconnus en 1802 et 1844. Une faculté de théologie n'est pas un simple institut de sciences religieuses. Il suppose un lien avec une institution religieuse, comme c'est clair pour la faculté de théologie catholique et implicite pour la faculté protestante. Or, il paraît difficile d'imaginer que la République puisse aujourd'hui voter une loi pour 3 départements seulement, et laïcité oblige, elle ne pourrait procéder à la reconnaissance d'un nouveau culte. Cet exemple montre que le système concordataire alsacien-mosellan est la perpétuation d'un état de fait historique qui est capable de s'adapter à l'intérieur de son propre régime, mais qui n'est pas en mesure d'innover. À titre de comparaison, on peut citer la Belgique et le Luxembourg, où le régime napoléonien des cultes reconnu a été appliqué de 1802 à 1815 et qui en ont étendu depuis lors les bénéfices par voie législative à d'autres cultes. Mais c'était sur l'ensemble de leur territoire. Et là, nous avons un régime qui s'adapte en permanence selon les nouvelles requêtes qui se manifestent dans la société. En Alsace-Moselle, la législation des cultes est définitivement acquise. Elle a un caractère résiduel. Elle ne peut être étendue hors du territoire des trois départements ni à d'autres cultes. Et donc le système concordataire tel qu'il est appliqué aujourd'hui est comparable certainement à d'autres régimes concordataires contemporains. Mais il y a une spécificité de l'Alsace-Moselle qui est l'enchevêtrement de couches législatives qui s'alimentent à des sources idéologiques parfois très éloignées l'une de l'autre. Si on part du gallicanisme des articles organiques jusqu'à la conception actuelle de la liberté religieuse pour tous. Mais cette complexité est dépassée par la facilité d'adaptation aux réalités que manifeste ce statut. Et c'est l'explication de la longévité du système. Ainsi, les actes, pour prendre quelques exemples d'adaptation, les actes par lesquels le pouvoir politique intervient dans les nominations ecclésiastiques sont-ils toujours précédés de négociations qui visent à un accord entre les deux partenaires ? Ainsi, la confessionnalité de l'école a-t-elle suivi le pluralisme de la société ? Il n'y a plus d'école confessionnelle maintenant. Elles sont toutes théoriquement interconfessionnel. Ainsi, l'obligation de l'enseignement religieux a-t-il été assortie de la faculté de dispense ? D'autre part, les cultes non reconnus peuvent bénéficier de subventions des collectivités locales. Elles ont l'avantage, les cultes reconnus, non reconnus ont l'avantage de ne pas être sous la tutelle administrative, alors que les cultes reconnus le sont. Le système a une légitimité historique incontestable. Il repose sur le triple consensus de la population, des cultes eux-mêmes et de l'État. Pour les premiers, le statut local est un élément de la forte conscience régionale. Pour les seconds, pour les cultes eux-mêmes, il comporte des avantages matériels indéniables. Pour l'État, il est un facteur de paix sociale et de reconnaissance de l'attachement des Alsaciens lorrains à la France à travers une histoire secouée.